Peut-être que vous êtes là depuis peu, puis ça fait quelques dimanches que vous venez, mais vous avez déjà remarqué qu'à chaque réunion qu'on a à l'église, il y a un temps de louange, un temps de célébration, où il y a une équipe de musique qui se prépare à venir ici, qui prépare des chants, et ensemble, on est en train de proclamer la gloire de Dieu, de le remercier pour qui il est, pour ce qu'il fait. Et c'est ça la louange, n'est-ce pas? Et combien sont heureux d'avoir une église qui a une louange dynamique, qui nous emmène au pied de Dieu en disant « Wow, ce matin, j'étais peut-être pas prêt à venir à l'église, mais j'ai fait un effort, je viens, mais je suis encore dans mes pensées. » Et quand on arrive ici, et puis quand les paroles nous pointent vers Jésus, nous pointent vers la gloire de Dieu, nos cœurs sont renouvelés, puis on est comme « Il y a quelque chose qui se passe. » Combien ont déjà vécu ça? Ça, c'est la louange. Mais ce n'est pas que ça, la louange. J'aime la définition de Louis Guillot qui dit de la louange. « La louange est notre réponse. » personnelle et collective à Dieu, pour qui il est et pour ce qu'il a fait. Cela est exprimé par les choses que nous disons et la façon dont nous vivons. Vous savez, la Bible entière, du début jusqu'à la fin, n'est qu'une manière de rendre gloire à Dieu. Tout ce que nous faisons dans l'humanité ici a été fait pour que nous puissions rendre la gloire à Dieu. Il y a des centaines de passages qui parlent de célébrer l'Éternel, d'acclamer son nom, de venir louer, adorer le nom de Dieu. Et je crois et j'espère que dans nos vies, nous sommes conscients qu'il faut avoir une vie de louange et d'adoration, n'est-ce pas? Mais parfois, on peut avoir un piège de limiter la louange à quelques expériences. Peut-être certains d'entre vous ici, si on prend conscience de notre vie chrétienne, on peut parfois limiter la louange à seulement 25 minutes à l'église le dimanche. La semaine, je peux vivre en tant que chrétien, je peux témoigner, mais la louange que je donne à Dieu, l'adoration, le temps de célébration, de reconnaissance, ben, il est le dimanche matin. Parce que peut-être vous dites, moi je ne sais pas chanter, tu sais, même sous ma douche, ma femme me dit que je chante faux, alors j'arrête de chanter, puis ma louange est réservée comme le dimanche matin pendant 25 minutes. Et puis, il y a peut-être des personnes qui disent, ah moi ce temps-là est tellement bon, j'arrive bien à l'heure pour être certain d'avoir, bien à l'heure, tout le monde n'arrive pas à l'heure, il y en a qui attendent que la louange soit finie pour avoir le vrai message de l'Évangile. Mais combien savent que la louange et l'adoration à l'église, le matin quand on vient célébrer, c'est très spirituel. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. C'est même pour ça que dans notre manière de faire l'église le dimanche matin, on garde un temps où on a l'adoration, la louange. Ensuite, on a un temps d'enseignement, de connaissance de la parole, où on ouvre la parole de Dieu. Et aussi, on a un temps à la fin de la réunion où on veut la communion entre nous. On veut un espace café, un espace où dans l'église, on vient, oui, connecter avec Dieu, mais on vient connecter avec le corps. Combien savent que c'est vrai? Les trois sont aussi importants les uns que les autres. Mais parfois, on peut limiter la louange. Même certains vont dire, ben ça, c'est juste le 25 minutes à l'église le dimanche matin. Ça, c'est mon moment de louange. Ma vie de louange, c'est que chaque dimanche, je viens et puis j'acclame Dieu dans ses chants. Il y en a, ils le limitent à un seul style musical. Et quand ce n'est pas votre style musical que vous aimez, oh, j'ai moins aimé ce matin, puis j'ai eu du mal à rentrer dans la louange, dans l'adoration. Et puis parfois, on piège notre louange, la manière dont on vient et dont on vient donner la gloire à Dieu, à seulement certaines positions, certaines choses. Un style de musique, est-ce que j'ai aimé le band ce matin? Parce que c'est ça qui va déterminer si je vis une bonne adoration ou pas. Vous savez, si on vit une louange circonstancielle, ça veut dire qu'en fonction des circonstances, mon adoration envers Dieu va fluctuer. C'est très dangereux. Parce qu'on va rentrer dans un mode de consommer la louange au lieu d'offrir notre louange à Dieu. Que le band soit bon ou pas, et il est toujours excellent, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut les applaudir et les remercier? Chaque semaine, ils donnent leur excellence. Mais que j'aime la personne qui fait les chants ou de la manière dont elle a amené ce nouveau chant ou « Oh, c'était un vieil hymne, mais ils l'ont remixé, puis j'ai vraiment pas aimé l'arrangement ce matin. » Ça ne doit jamais jouer en fonction de notre adoration envers Dieu. Et parfois, on tombe dans un piège de dire « En fonction de ce qui va se passer ce matin, ma reconnaissance et ma louange vont être différentes. » Je voudrais vous défier ce matin que ce qu'on fait ici, ce qu'on donne comme temps de louange, comme espace de louange qu'on a ici le dimanche matin, ne doit que vous encourager. Que vous l'aimiez, génial, ça doit vous encourager à louer plus. Que vous ne l'aimiez pas, ça doit vous encourager à encore plus fixer les yeux sur Jésus. En fait, la louange que nous faisons ici avec la musique, ou peu importe ce que vous écoutez dans la voiture, votre temps de louange et d'adoration ne doit jamais être moins que le standard de donner le meilleur à Dieu. Notre louange doit être non pas circonstancielle sur ce qu'on vit, elle est en fonction de qui on adore. Et nous devons adorer Dieu avec notre meilleur, de tout notre cœur. Le psaume 134, verset 2. Le livre des psaumes est un livre dans la Bible, pour ceux qui, peut-être, qui nous visitent, qui ne connaissent pas vraiment la parole de Dieu. Le livre des psaumes, c'est le roi David qui l'a écrit en majorité. Et ce sont des chants de louange, des poèmes, des poésies que le roi, inspiré par l'Esprit de Dieu, exprimait sa reconnaissance à Dieu. C'était des temps où il exprimait, parfois tout allait bien et puis il glorifiait Dieu, parfois tout allait mal et il glorifiait Dieu pareil. Et c'est un livre qui nous apprend à comment adorer Dieu. Le psaume 134, 2 dit « Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles, dans certaines versions, c'est que les malheureux écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. » Amen. Quand je lis ce verset-là, quand je lis ce passage-là dans les psaumes, ça me montre à moi quelque chose. Que la louange, c'est un privilège et une responsabilité. C'est nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, en tant qu'Église, ça doit être notre privilège de louer Dieu, mais c'est aussi notre responsabilité de le faire. Et on va regarder ensemble, rapidement, à deux points. Vous savez le privilège que c'est, puis David le dit dans ce psaume-là, il dit que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Il y a vraiment un côté où je suis privilégié de connaître Dieu, d'être en relation avec lui, de pouvoir venir dans sa présence, le Dieu de l'univers, celui qui a créé l'univers, celui qui a créé les êtres vivants, celui qui a créé les molécules qui sont en moi, les cellules, tout ce qu'il a créé, je peux être en relation avec lui. Combien disent « Waouh, c'est incroyable ce qui se passe ». C'est un privilège. Et que notre âme fasse toute sa fierté de louer et de célébrer Dieu. La parole dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Est-ce qu'on prend en conscience de ça? Qu'à chaque fois qu'on loue l'Éternel, il y a une manifestation de sa présence qui est là. Vous savez, Dieu est omniprésent. Donc ça veut dire qu'il est partout sur la terre. Il est présent partout. La Bible dit qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Ça veut dire qu'il a toute puissance. Et il est partout. Donc, peu importe où vous êtes, quand vous acclamez l'Éternel, l'Éternel est là et il vous entend. Combien savent que c'est vrai? Mais il y a quelque chose d'incroyable quand son corps vient, quand on se réunit en tant que croyant dans un groupe, qu'on soit à l'église, qu'on soit des milliers, qu'on soit juste trois personnes, et quand on prend un temps pour adorer Dieu, pour remercier Dieu pour qui il est et pour ce qu'il fait, il y a une manifestation de sa présence. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et combien savent que quand Dieu siège quelque part, il y a quelque chose qui se passe toujours. On peut peut-être pas forcément le voir, et puis on n'est pas là pour chercher du sensationnel. Oh, est-ce que tu as frissonné? Est-ce que tu as pleuré? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Est-ce que les éclairs ont retenti? Oui, il y a du grésil ce matin, mais je pense pas que ce soit la présence de Dieu qui fait ça, ok? Mais parfois, on est là en train d'essayer de chercher le sensationnel, alors qu'en fait, avec la foi, on sait que là où Dieu siège, il se passe quelque chose, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas. Et nous, ce matin, nous devons comprendre que quand on vient les dimanches matins, par exemple, on parle d'aujourd'hui, on parle de la louange qu'on donne les dimanches matins. Quand on vient ici, puis quand notre âme s'élève vers Dieu, puis qu'on voit toute sa grandeur, il faut que notre vie soit renouvelée, il faut que notre louange soit renouvelée. On ne peut pas vivre la même louange que la semaine dernière. Non, pourquoi? Parce que pendant toute la semaine, Dieu a été fidèle. Parce que ses bontés sont renouvelées chaque jour. Donc aujourd'hui, j'ai des raisons bien plus grandes que la semaine dernière de le célébrer. Est-ce que vous allez me dire, ouais, mais peut-être que cette semaine a été pire que la semaine dernière, ce qui fait que ma louange va être... Non, au contraire. Parce que si tu es encore ici pour louer Dieu, c'est qu'il t'a prêté grâce. C'est qu'il y a eu des jours de grâce où Dieu a été fidèle envers toi, que tu l'aies vu ou que tu ne l'aies pas vu. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut... Le privilège qu'on a aussi dans la louange, c'est qu'on peut le louer n'importe où, n'importe quand. Vous savez, dans l'Ancien Testament, la manière dont on s'approchait de Dieu était très protocolaire. Il y avait vraiment, il y avait la tente de la rencontre, il y avait un lieu, le sanctuaire de Dieu, il y avait vraiment un lieu, le lieu très saint où la présence de Dieu venait quelques fois. Il y avait vraiment, c'était très ponctuel, c'était très glorieux, c'était la présence de Dieu, mais c'était très compliqué d'aller dans la présence de Dieu. Il y avait vraiment un protocole qui était là. Et puis, à chaque fois que le peuple voulait adorer Dieu, il devait venir avec des sacrifices. Il devait offrir des sacrifices. Donc, il y avait des animaux. C'était vraiment à l'ancienne. Aujourd'hui, on ne vit plus là-dessus. On ne vit plus sur ces sacrifices parce que Jésus-Christ a payé le sacrifice pour nous. Il est devenu le sacrifice ultime pour que nous, Nous n'ayons plus à faire des sacrifices, à venir devant Dieu en ne sachant pas s'il allait. Non, non, on vient sous le sacrifice de Jésus en disant, il a donné sa vie pour que moi je puisse être réconcilié avec Dieu. Être pleinement dans la présence de Dieu ici-bas sur terre. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. C'est-à-dire que nous n'avons plus un protocole à venir, puis c'est compliqué de venir. Non, 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 la présence de Dieu est partout. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre. Et aujourd'hui, peu importe où tu es, Dieu est proche de toi. Et à chaque fois que tu invoques son nom, à chaque fois que tu loues son nom, à chaque fois que tu l'adores, tu le remercies pour qui il est, Dieu est là proche de toi, combien le savent? Il y a une manifestation de la gloire de Dieu. Vous savez, on parle souvent en ce moment des mouvements de louanges, est-ce que c'est des louanges prophétiques, est-ce que c'est des louanges... Mais vous savez, les plus grands moments de louanges spontanées que j'ai dans ma vie ne sont pas à l'église. Pourtant, je suis un conducteur de louanges. J'ai déjà vécu des temps où on avait prévu un certain chant, et puis à un moment donné, on sent qu'il y a une direction différente, où on suit l'esprit, on veut être à l'écoute de l'esprit. Combien croient qu'on veut être à l'écoute de l'esprit? Mais souvent, ma louange spontanée n'a pas été sur le stage avec une guitare en guidant l'église, non. Ça a souvent été dans mon auto. Je suis en train de conduire, puis je suis en train d'écouter un chant, et puis là, il y a mon âme qui vient de comprendre quelque chose. Où Dieu vient d'être révélé à mes yeux d'une manière nouvelle. Et là, alors que je n'avais pas prévu, là je suis juste en train de me dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Puis là, je suis en train de le glorifier. Ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu, c'est spontané. C'est ça pour moi la louange qui est la plus puissante. Ce n'est pas forcément quand le leader de louange nous conduit dans une louange spontanée. Non, c'est quand chacun d'entre nous ici, nous puissions nous connecter à Dieu et puis dire, là, il y a quelque chose là. Là, mon cœur est en train de brûler parce que je vois la gloire de Dieu et j'ai envie juste de lui dire merci. J'ai juste envie de l'adorer. Et combien sont reconnaissants que tu peux adorer Dieu, peu importe où tu es, dans ton auto, ferme pas les yeux quand même, garde les yeux ouverts et sois concentré. Mais combien savent et combien sont reconnaissants et est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui est là, présent partout et on peut se connecter à lui, être en relation avec lui. C'est un privilège de ne pas juste pouvoir vivre ce temps de louange à l'église. Parce que vous savez que si on le garde pour l'Église, notre louange, vous savez, on revient sous la loi. Dieu nous a donné accès. Le voile a été déchiré du haut vers le bas, miraculeusement. Lorsque Christ est mort, le voile qui séparait, entre guillemets, la présence de Dieu et la terre a été enlevé. Dieu a ouvert le voile en disant, il n'y aura plus de séparation entre vous et moi. La séparation s'est faite à la croix. Et maintenant, par la croix, vous êtes en capacité d'être renouvelé avec moi, une communion parfaite. Alors quand on donne juste la gloire à Dieu le dimanche matin, 25 minutes, une fois par deux semaines, si on arrive à venir, mais il y a un côté où on revient au protocole d'avant, derrière le voile. Dans le stationnement, non, ce n'est pas encore spirituel, il faut être à l'église ici. Et il faut que je sois vraiment disposé, il faut que ce soit tel chant pour que ma louange puisse être la meilleure. Non! Ta louange doit être la meilleure chaque matin quand tu te réveilles, quand tu te regardes en disant « Hey Dieu, tu me donnes encore une journée de grâce parce que j'ai le souffle. » Oui, mais ma vie, est-ce qu'elle va bien en ce moment? Peu importe qu'elle va ou bien ou pas, elle fonctionne et Dieu me donne aujourd'hui la capacité de vivre encore un miracle, d'avancer dans ses promesses. Notre louange ne doit pas être circonstancielle. Et vous savez, la manière dont, et peut-être vous êtes croyant, puis vous allez vous retrouver, quand on loue Dieu, Il y a une joie, il y a une paix, il y a un bonheur, il y a une plénitude qui remplit notre âme. Combien l'ont déjà vécu? Levez la main pour montrer peut-être à ceux qui l'ont jamais vécu. Regardez, il y a une majorité de chrétiens qui disent, quand j'ai déjà vécu un temps d'adoration et de louange avec Dieu, c'était tellement puissant. C'était peut-être pas à l'église, c'était peut-être vous seul dans votre chambre. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. C'était même pas vous qui chantiez, mais il y avait juste des larmes qui coulaient en disant « Waouh, je suis en train de comprendre la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour telle situation. Merci pour la vie, pour la santé. » Puis là, tu étais juste avec un cœur qui débordait de reconnaissance. Ces moments-là nous apportent un bonheur incroyable. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons été créés pour ça. En ce moment, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux les gens qui disent « Hey, trouve ta destinée. Fais ce pourquoi tu as été créé. » Vous savez quand on va avoir le summum de notre bonheur? c'est qu'on va avoir une vie qui va adorer Dieu en permanence. Parce que quand on fait ce pour quoi on a été créé, c'est exactement ça notre destinée. Peu importe que tu aies trouvé ton ministère ou pas, que tu sois dans la job de rêve que tu veux, que tu viennes vivre la pire année ou pas, si tu as une attitude de reconnaissance et de louange et d'adoration en Dieu, en toutes circonstances, peu importe le jour, peu importe le moment, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, qu'il fasse de la grésille ou qu'il fasse 40 degrés, si je loue Dieu pour qui il est, pas pour ce que je vis ou pas, pour qui il est et pour ce qu'il fait pour moi, ta vie sera en perpétuel bonheur. Combien le croient? Notre vie et sur cette terre, nous avons été créés pour louer Dieu. C'est David qui le dit dans les psaumes. Je suis né pour louer Dieu. J'ai été créé pour adorer mon Sauveur. Et vous savez, David ne connaissait pas encore Jésus. Il a parlé de Jésus sans le savoir. Par l'Esprit de Dieu, il était inspiré à écrire des psaumes qui parlaient de l'avènement du Messie. Mais lui ne l'avait pas vécu. Nous savons qui est Jésus-Christ. Nous avons toute l'histoire. David, quand il a écrit les psaumes, ne savait pas encore comment ça allait arriver. Quand est-ce que ça a été écrit? Des centaines d'années avant. Nous avons la plénitude, nous avons l'entièreté de la parole de Dieu. Nous savons comment la grâce de Dieu est, nous savons comment Jésus est. Et c'est pour ça que vous ne pourrez jamais avancer dans votre adoration avec Dieu si vous n'avancez pas dans votre connaissance de la parole. Parce que c'est en connaissant la volonté de Dieu et la grâce de Dieu et les promesses de Dieu qui sont dans ce livre, la parole vivante de Dieu, que votre cœur va être renouvelé. Parfois, on veut vivre une louange incroyable. Ah, chaque dimanche, je veux qu'elle soit meilleure. Mais tu n'as pas tes yeux dans cette parole. Tu recherches l'Esprit, mais l'Esprit veut te montrer qui est Christ à travers cette parole. Il faut que nous connaissions la parole de Dieu, parce que c'est elle qui nous révèle la gloire de Dieu. Et quand on a une révélation de la gloire de Dieu, c'est là où notre louange est renouvelée. C'est là où notre louange est rafraîchie. Combien veulent avoir une louange rafraîchie ce matin? Nous avons été créés pour honorer Dieu, pour l'adorer. On a une reconnaissance qui vient. J'aime cette citation qui dit « On n'est pas reconnaissant parce qu'on est heureux. On est heureux parce qu'on est reconnaissant. » Et vous savez, ça c'est fort. Souvent, on cherche le bonheur. Ah, quand je serai heureux, je vais remercier Dieu. Non, remercie Dieu déjà pour qui il est. Et alors que tu vas le remercier, tu vas reconnaître qui il est, c'est ton cœur qui va être renouvelé. Et là, le bonheur va être là pour toi. Tu seras heureux parce que tu seras reconnaissant devant Dieu. N'attends pas d'être heureux pour être reconnaissant. Commence par la reconnaissance et tu seras heureux. Combien disent amen? Je vais vous laisser assimiler la phrase. Il y en a, ils sont encore en train de se réveiller ce matin. Sois reconnaissant et tu seras heureux. N'attends pas d'être heureux pour être reconnaissant. Éphésiens 5, versets 18 à 21 nous dit « Soyez remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Amen. Alors que mon fils a 5 ans, et puis quand je fais... Le fait que je sois père a vraiment changé ma vision de la parole, a changé la vision de comment je voyais la paternité de Dieu envers nous. Il y a vraiment quelque chose qui s'est fait parce que j'étais moi père, responsable d'un enfant. Et je voulais être en relation avec lui. Comme un père n'a jamais un enfant volontairement pour être loin de lui. Non, il veut être proche. Il veut que l'amour soit réciproque. Amen. Tous les pères disent amen. Et alors qu'il était là, j'avais des discussions parfois avec lui, puis c'était vraiment drôle. Et puis, quand il m'a amené des cadeaux, c'était incroyable parce que le cadeau qu'il m'apporte a une très, très peu de valeur monétaire. Tu sais, quand il ramène un collier de pâtes, c'est assez intéressant. Tu ne vas pas le porter tous les jours, ton collier de pâtes, n'est-ce pas? Mais il te ramène ce collier, puis on sait, hein, qui a payé les pâtes avec lesquelles il a fait les pâtes? Moi. Qui a payé la corde pour faire le collier de pâtes? Moi. La peinture, c'est moi qui ai pris du gaz, qui ai mis dans mon auto pour aller jusque chez Maxi, prendre un paquet de pâtes et puis de le ramener. Donc, entre guillemets, tout ce qu'il me donne, c'est moi qui lui ai déjà donné. Vrai? Vous êtes d'accord? Vous me suivez jusque-là? Donc, je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas aimé son cadeau, non. Mais son cadeau qu'il m'offre, c'est cute parce qu'en fait, ben, c'est moi qui t'ai tout donné. Donc. Mais la chose la plus importante que mon fils peut me donner, alors que souvent, c'est moi qui lui donne tout. Mais c'est quand il me regarde et puis il me dit « Merci papa, je t'aime papa. » Même s'il pouvait me donner n'importe quoi, la seule chose qui compte à mes yeux, c'est son amour et sa reconnaissance. C'est la même chose pour nous et Dieu. Tout ce qu'on veut offrir à Dieu, « Hey, je paye ma dîme depuis tellement de semaines, Dieu doit être fier de moi. » Mais Dieu t'a donné tout ce que tu as. Donc toi, tu lui rends 10% puis tu es fier, mais lui, il dit comme, je t'ai donné bien plus que tout ce que tu pourrais imaginer. Et puis parfois, on est comme, oh wow, je lui donne mon investissement, je viens à l'église et puis je suis placeur ou je suis stationnement. Et puis là, je donne à Dieu tellement, là, il doit être fier. Et Dieu t'a tout donné, il te donne l'énergie, le souffle, la motivation, la santé pour que tu puisses le faire. Et tout ce qu'on fait, on lui redonne et puis on a l'impression que, comme notre collier de pâte, il va tellement le mettre tous les jours. Il nous a tout donné. Mais la chose la plus importante qu'il veut, c'est notre amour et notre reconnaissance. C'est des enfants qui vont vers lui en disant merci, merci pour tout ce que tu me donnes, merci même pour la santé parce que je peux te servir, c'est tellement un privilège. Et merci parce que tu m'as aimé le premier, moi maintenant je connais cet amour et je veux t'aimer en retour. Et vous imaginez comment un père est dans la joie quand son fils de 5 ans lui dit ça, merci papa, je t'aime papa, je suis content de passer du temps avec toi, ça fait ma journée. Imaginez comment nous, en tant qu'Église, quand on vient à Dieu, quand on lui offre cette louange chaque jour personnellement et collectivement, le cœur de Dieu est réjoui. Et c'est là où sa bénédiction est répandue. Combien le croient ? Nous avons le privilège de louer Dieu. Notre louange doit être un réflexe quand tout va bien. Et vous savez, c'est souvent là où ça pêche. Quand tout va bien, parfois on oublie de dire merci. Je l'ai même remarqué avec mon fils, avec les deux, parce qu'on essaye de leur donner les réflexes de politesse, n'est-ce pas ? Et puis, à chaque fois qu'on lui donne quelque chose, il est tout content. Alors, des fois, s'il te plaît, est-ce que je peux l'avoir ? S'il te plaît, s'il te plaît. Alors là, on fait un peu, regarde, tu l'auras après. Puis on essaye de lui donner des cadres et tout ça. Puis, il est tellement poli avant d'avoir la chose. Il est tellement beau, tellement cute. Il a des yeux de chat comme ça. On ne peut pas résister, OK ? Alors, on essaye. Non, Sophie, donne-lui pas maintenant. On a dit après la collation. Alors, des fois, on tombe quand même, OK ? Donc, on lui donne un peu. Mais Dieu nous pardonne, je pense, ce n'est pas un péché. Alors, on est là, on essaye. Puis, il est tellement gentil, tellement poli. Mais une fois qu'il a eu ces choses, bye. Lenny, qu'est-ce qu'on dit ? Puis, il est déjà parti. Pourquoi ? Parce qu'il a eu ce qu'il voulait. C'est normal, c'est notre réflexe à nous aussi. Combien de fois on a prié pour quelque chose et quand Dieu nous l'a donné, on a oublié. Comme Jésus qui guérit des malades dans la Bible. Puis il y en a une dizaine, puis il y en a juste un qui revient. Merci. Souvent, notre reconnaissance envers Dieu est plus dans les moments où ça va mal que quand tout va bien. En ce moment, j'espère que vous vivez une bonne vie. On n'est pas sous la persécution. On vit des moments, oui, up and down, comme tout le monde, mais on vit dans un des pays, les 5 plus grands pays au monde, les plus riches, où on a une qualité de vie incroyable. Est-ce qu'on remercie Dieu pour ça chaque jour? Parce qu'il y en a, ils sont sous la persécution, et leur louange, parfois, est plus intense que nous. Et alors qu'on a tout, on pourrait prier une vie pour tout ce qu'on a, et puis il y en a qui passeront même leur vie sans avoir ce qu'on a ici. Et parfois, ils sont plus reconnaissants envers Dieu que nous. Parfois, il faut qu'on s'arrête et qu'on dise, Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de reconnaissance. Ouvre nos yeux sur toutes les choses. Je vous le dis, des fois, après que j'ai vu des reportages sur la misère du monde, parfois, quand je lassais mes souliers, je me disais, Seigneur, merci pour juste avoir des souliers. Il y en a dans ce monde qui ne peuvent même pas le faire. Et ce n'est pas juste que je dois remercier Dieu et puis continuer ma vie. Non, il faut que je remercie Dieu pour qui je suis là sur cette terre et que je lui redonne merci. Mais il faut aussi que mon cœur soit prêt à donner aux autres. C'est ça aussi de la reconnaissance. Ce n'est pas juste merci pour qui je suis et puis les autres ils se débrouillent. Non, merci parce que tu m'as donné une place où j'ai peut-être plus d'influence, où j'ai peut-être plus de moyens pour bénir les autres. Mais notre reconnaissance doit être un réflexe quand tout va bien. Tout va bien, loue Dieu. Tout va bien, chante Dieu. Même si tu chantes faux, Dieu aime ta voix. Dieu t'amène. Et le deuxième point, alors qu'on voit que la louange, c'est un privilège. La louange, c'est également une responsabilité. Et pour nous, en tant qu'Église, c'est une responsabilité incroyable. Le verset 134 dit, « Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. » Il y a un côté où, « Venez et dites avec moi la grandeur de l'Éternel. » Que les humbles, ou dans certaines traductions, c'est que les malheureux écoutent. C'est fort parce que l'Église se doit d'avoir une louange qui proclame la gloire de Dieu. Et si l'Église ne donne pas la gloire à Dieu, qui lui le donnera ? Nous avons une responsabilité en tant que corps, en tant qu'Église, de proclamer la grandeur de Dieu. Et nous avons une responsabilité de la proclamer même quand on ne voit pas Dieu agir autour de nous. Trop souvent, on est comme Thomas. Je vais croire que ce que je vois, je vais donner la gloire à Dieu que quand je verrai la gloire de Dieu. Si on avait juste les yeux spirituels ouverts, on verrait la gloire de Dieu partout autour de nous. La création chante la gloire de Dieu. Et si nous on ne chante pas la gloire de Dieu, les pierres le feront. Combien se disent, non, ma responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, j'ai trouvé ma place ici, sur cette terre, je sais quelle est ma destinée. Pas de faire plus d'argent, pas d'avoir plus d'influence ici. Non, c'est de glorifier Dieu dans chaque chose que je vais faire. Quoi que je vais faire, quoi que je vais manger, quoi que je vais boire, quoi que je vais dire, quoi que je vais penser, je vais donner la gloire à Dieu. Nous avons une responsabilité. Même quand tu n'as plus aucune raison de louer, loue plus fort. La parole nous dit dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, alors que Paul est à son deuxième voyage missionnaire, Paul était un ancien persécuteur de l'Église. Il tuait les chrétiens parce que lui était un extrémiste religieux juif. Et alors que lui pensait que c'était complètement n'importe quoi, le Jésus qui était venu, qui avait donné sa vie pour les gens, et puis c'était n'importe quoi, il essayait de faire taire ça. Et après avoir fait une rencontre avec Jésus-Christ, il tombe et sa vie est complètement changée. Là, la grâce de Dieu le remplit. Et celui qui voulait tuer les gens est maintenant celui qui va donner quasiment sa vie pour les gens. L'amour de Dieu le remplit. Et puis, Paul est incroyablement transformé. Et alors qu'on va lire dans ce texte de Actes 16, alors que Paul maintenant passe sa vie à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, l'amour de Dieu pour ceux qui sont juifs, pour ceux qui sont païens, pour ceux qui ne connaissent pas. Paul est en train d'être là, je vais proclamer l'amour de Dieu à tout le monde. Il est dans son deuxième voyage missionnaire. Tout, entre guillemets, fonctionne bien. Il y a des miracles qui se font partout. Et là, Paul est avec son compagnon Silas. Et ils arrivent dans une ville de Philippe. Okay, on va le lire ensemble. Actes 16, 23 à 26. Et alors qu'il est en train de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ, là, il commence à y avoir de l'opposition. Et l'opposition fait que ça entraîne la persécution. Et là, ils sont roués de coups par tout le village. Ils sont livrés aux magistrats. Et les magistrats disent, on va les mettre en prison. Le texte arrive ici. Actes 16, 23 à 26. Si vous n'avez pas de Bible, ça sera sur le PowerPoint. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près pour se conformer à la consigne. Il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans les blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Amen. Et le texte ensuite continue et l'histoire fait que le geôlier, celui qui était là et qui devait garder tous ces prisonniers, voyant ce côté incroyablement, c'est la pire nouvelle pour lui, ok? Nous on lit ça en disant « Yes !» Lui est comme « No, j'ai perdu ma job là !» Et non seulement il perd sa job, mais il savait qu'il allait perdre sa vie. Donc avant qu'on lui enlève, il dit « Je vais la prendre moi-même, je vais mettre fin à mes souffrances. » Et alors qu'il va pour s'enlever la vie, Paul arrive et il dit « Non, ne t'enlève pas la vie. » Tous les prisonniers sont là, entre guillemets, nous on est là. Et puis les plus gros prisonniers qu'il fallait qu'ils soient là, c'est Paul et Silas. Peut-être les autres sont partis, mais lui est comme, non, on est là, ne t'enlève pas la vie. Et là, voyant ça, il disait, mais qu'est-ce qui se passe? Là, il dit, mais comment je peux faire pour être sauvé? Alors sans doute qu'il avait entendu les prières, il avait entendu les louanges. Puis il dit, mais comment je peux être sauvé moi aussi? Et là, lui, il dit, crois au Jésus-Christ, toi et ta famille. Puis il arrive, toute sa famille est changée. Et là, Paul vient de vivre un miracle incroyable, alors que il était complètement découragé. C'était peut-être la pire saison de sa vie. Alors qu'il était dans son voyage missionnaire, tout allait bien. La volonté de Dieu se fait, mais là, il vit de l'injustice. Il est battu, insulté, humilié, blessé, livré au magistrat, jeté en prison dans la pire cellule, attaché aux pieds, impossible de bouger, parce qu'il avait écouté la voix de Dieu. Peut-être en ce moment, tu es dans cette situation. Tu dis, avant, je pouvais célébrer Dieu d'une manière incroyable, tout allait bien dans ma vie. Mais en ce moment, je vis comme injustice après injustice. Et j'ai du mal de plus en plus à venir dans la présence de Dieu et à être juste bien. Ah non, je suis frustré, je suis blessé. J'ai été insulté, j'ai été trahi. Et puis là, en ce moment, je suis comme Paul et Silas, au fond d'une prison, la pire. Je ne me suis jamais retrouvé là, je n'avais jamais voulu me retrouver là. J'ai tout fait pour Dieu et voici où je me trouve. Et là, tu es plus haut. Blessé, les pieds attachés. Puis tu es comme, hein, s'il y a bien une place où j'ai plus envie de louer, c'est bien ici. Mais Paul et Silas, ce qu'ils font, c'est que même dans le pire saison de leur vie, ils commencent à prier et chanter des louanges à Dieu, au fond de leur cellule. Ils commencent à élever le nom de Dieu, même si les circonstances sont les pires qu'ils ont jamais vécues. En fait, c'était ni le lieu, ni l'heure de la prière. Pour des Juifs, il y avait 3 moments de prière dans la journée. Et il fallait que tu rentres au temple. Et puis Mais là, c'est ni l'heure, c'était au milieu de la nuit. Ce n'était pas l'heure où normalement on devait prier, ce n'était pas le dimanche matin. À l'église, Nouvelle-Ville, à Prairie, ce n'était pas quand tout va bien, quand j'avais l'habitude d'avoir... Non. C'est que dans le pire des heures, le pire moment, leur réflexe, ça a été de commencer à glorifier Dieu. Même s'ils ne comprenaient pas ce qu'ils... Ils ne savaient pas, eux, qu'il allait avoir un miracle. Ils pensaient peut-être qu'ils allaient passer leur vie ici puis mourir dans ce cachot. Mais là, ils ont comme l'assurance de dire, peu importe les circonstances, on va glorifier Dieu. Et là, ils le font, mais pas dans leur cœur. Ils le font et tous les prisonniers les entendent. Là, ils commencent à voir que, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils chantent, eux? Ils sont sans doute fous. Ils sont sans doute peut-être ivres, parce que là, ce n'est pas normal ce qu'ils font dans la pire saison de leur vie. Loue plus fort quand c'est plus difficile de louer. Quand c'est la pire saison de ta vie, commence à élever ta voix. Commence à juste dire merci pour qui Dieu est, même si tu ne vois pas ce qu'il est en train de faire en toi. Parce que c'est exactement ce que Dieu voulait à ce moment-là. C'est que ces deux missionnaires-là commencent à élever leur voix et Dieu était en train de manifester sa gloire pour que tout le monde entende. Bien plus que s'ils avaient été libres. Non, quand ils étaient prisonniers dans la pire saison de leur vie, dans la pire peut-être maladie, dans ce que tu vis en ce moment, tu es peut-être avec une maladie puis que tu te dis c'est la pire situation, je ne peux pas louer Dieu, je n'ai plus aucune raison de louer Dieu. Même quand tu n'as plus aucune raison de louer Dieu, tu as toutes les raisons de louer Dieu. Parce que Dieu est plus grand que n'importe quelle situation que tu vis ici. Et la louange qu'ils ont donnée les a libérés. Elle a libéré non seulement eux, mais les prisonniers aussi. Elle a non seulement libéré eux et les prisonniers, mais elle a libéré aussi le geôlier. La louange que tu vas avoir dans la pire situation de ta vie va avoir des répercussions au-delà de ce que tu peux imaginer. Parfois, tu te dis, je suis tout seul, j'ai été abandonné, trahi, et puis là, dans ma chambre, je suis juste en train de louer Dieu, puis il n'y a rien qui va se passer, tu n'as aucune idée de ce que Dieu est en train de faire pour qu'il y ait un miracle qui passe, non seulement pour que toi, tu sois relevé, mais les gens autour de toi, ta famille, tes enfants, peut-être les situations autour de toi vont changer parce que, alors que tu amènes la puissance, la louange à Dieu, Dieu amène la puissance dans ta situation. Combien disent Amen? Est-ce qu'on peut applaudir et remercier notre Dieu qui est là et qui se manifeste jour après jour? Les prisonniers les écoutent, les gens t'écoutent, les gens te regardent, les gens te voient si ça va bien ou pas. Et dans les moments les plus difficiles de ta vie, il y en a qui sont là et qui te regardent. Et tu sais pourquoi tu dois louer? Tu dois louer Dieu pour montrer que ce n'est pas ces situations-là qui te donnent la joie ou pas, c'est la présence de Dieu dans tes moments. Et quand même tu passerais par la vallée de l'ombre de la mort, mais tu dois ne craindre aucun mal, car il est là, il doit te rassurer, sa présence est là. Et ne t'inquiète pas, parce que s'il est là, c'est que tu vas en sortir de cette vallée. Que ce soit sur cette terre ou dans l'éternité, tu vas en sortir glorieux. Parce que le Dieu qui est glorieux est plus grand, celui qui est en toi, que celui qui est dans le monde. Tu sais pourquoi tu dois chanter plus fort? Parce que non seulement les gens t'écoutent autour, mais aussi parce que l'ennemi t'écoute aussi. Et il y a un combat spirituel. Et je crois réellement que Dieu voit son Église parfois être distraite, déconcentrée. Et on ne prend plus de temps d'adorer Dieu, de méditer sa parole, de lui donner gloire, pas forcément à l'Église, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Parce que si l'ennemi ne peut pas enlever notre salut, il peut nous dévier pour enlever tout notre potentiel. Et vous savez, il sait la puissance de la louange. Il sait la puissance que quand un chrétien vient et puis il dit « Seigneur, j'ai plus rien à te donner, mais je te donne tout. » Parce que c'est à toi que tout revient. La gloire, même dans mes situations les plus difficiles, je te la donne. Il sait que quand ça se passe, il y a un miracle qui se passe. Il y a des prisons qui sont en train d'être ouvertes. Alors que j'inviterai les musiciens à venir. Le psaume 150 dit, « Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth, la harpe, les tambourins et les danses, avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. » Est-ce que vous entendez un chant lexical du « silence dans ton cœur » sans faire de bruit? Est-ce que vous l'entendez celui-là? Non! Il est en train de dire tout le contraire. Là où éclate sa grandeur, là où est la majesté de Dieu, il faut que tu le loues avec les cymbales, avec tout ce que tu as. Est-ce que parfois on n'est pas trop timide dans notre louange? Est-ce que même à l'église, parfois on sait qu'on est là, il y a la louange qui est là, il y a les chants qui sont là, notre cœur est en train de bouillir, mais non, il y a des gens qui pourraient me voir. Là où éclate sa puissance, là où sa gloire est, là où le corps est réuni pour donner à la gloire de Dieu, et on n'est parfois même pas capable de donner une louange extravagante à un Dieu qui a démontré son amour extravagant envers nous? Est-ce que parfois on regarde trop à nos circonstances, même si elles sont bonnes, et que ça nous freine, et que ça nous piège? Vous savez, l'ennemi essaie de faire taire la louange de l'Église, parce qu'il sait qu'il y a une puissance quand son Église le loue. Oui, oui, le dimanche matin, mais aussi chaque jour. Quand tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte et puis qu'il n'y a personne qui te voit, juste ton père. Et là, tu commences à prier, tu commences à élever ta voix. Paul et Silas, ils ne faisaient pas ça pour montrer au monde. Non, non, ils pensaient peut-être que c'est la dernière fois qu'on va chanter notre vie. Mais alors qu'ils le faisaient, Dieu était en train de manifester sa gloire. À chaque fois que tu vas décider, contre toute attente, de donner la gloire à Dieu, Dieu va donner sa gloire sur ta vie, sur ta situation. Et alors que j'aime ce... Tu peux me donner le vase, s'il te plaît? Alors, j'aime cette illustration de, imaginons que notre vie soit ce vase. Et toutes les situations de notre vie, parfois, viennent nous glacer. OK? Quand j'ai été chercher de la glace ce matin, la personne m'a vraiment regardé bizarre. Oui, dans cette matinée. Imaginez, OK, toutes nos situations, et puis ça, c'est nos pensées. Ça, c'est notre cœur. Et puis, chaque jour, on essaye de... Mais il y a tellement de soucis, tellement de problèmes, tellement de mauvaises nouvelles qui viennent. Puis ça nous glace. Et vous savez, ça, c'est souvent ce qui arrive dans nos vies. On veut être bouillant pour Dieu, mais il y a tellement de situations difficiles. Tellement même, des fois, j'essaye, mais je n'y arrive pas. Du péché que je n'arrive pas à m'en... C'est froid en moi. Et je voudrais que ça soit chaud, mais j'ai... Vous savez, c'est quoi la décision qu'il faut prendre? Parce que ça, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever. Il n'y a qu'une seule chose qu'on peut ajouter à notre vie. C'est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu vient... comme de l'eau chaude. Puis alors que l'eau qui est chaude vient, elle commence à remplir notre cœur. Et là, tout ce qui est froid commence à disparaître. Parce que quand la présence de Dieu vient, nos problèmes s'évaporent. Il est en train de prendre notre cœur, il est en train de ramener, quand on vient louer sa présence, Dieu y siège au milieu des louanges de son peuple. Il y a une manifestation de sa présence qui vient. Nos cœurs commencent à être réchauffés. Et alors que tu pleurais pour ta situation, là tu pleures de la gloire de Dieu en disant tellement que Dieu est bon. Je ne sais même pas encore ce qu'il va faire avec ça. Mais j'ai comme une paix, j'ai comme une assurance que le Dieu qui est en moi est plus fort que n'importe quoi ce qui est là. Dieu est en train de prendre ton cœur. Et même s'il y a une tempête, vous avez peut-être pris déjà l'avion. Et alors qu'il y a une tempête, quand tu commences à quitter le sol, tu arrives et tu passes au-dessus des nuages. Et là, le soleil est brillant. Les nuages sont tellement beaux, on dirait une plage. Puis tu dis, en dessous, on dirait que c'est l'apocalypse. Puis au-dessus, on dirait que c'est « waouh, on est au paradis ». C'est exactement la même chose que quand tu viens louer Dieu. Dieu prend ton cœur et il l'amène à côté du sien. Il ramène la gloire de Dieu dans ta vie pour que tu puisses voir qui est Dieu. Et là, tes circonstances, elles n'ont pas changé. Il y a toujours quelque chose qui est difficile, oui, sur terre, mais ta perspective est prise et tu viens au-dessus. Et là, t'es plus affolé par ce qui se passe. Non, tu sais, parce que Dieu est en moi et je suis en lui. Il n'y a personne qui peut me ravir de sa main. Et même si les situations en ce moment sont les pires de ma vie, même si les situations veulent essayer de me faire taire ma louange, je suis tellement rempli de l'Esprit de Dieu que ma vie maintenant, je la vois différemment. Je ne suis plus en train de la subir. Je suis en train de m'épanouir en Dieu et Dieu va s'occuper de mes problèmes. On met le royaume de Dieu en premier et toutes les choses, Dieu va s'en charger. Et à chaque fois qu'on vit quelque chose de difficile, à chaque fois qu'il y a une tempête, rappelle-toi que tu dois voir la tempête, pas d'en dessous, mais d'au-dessus. Ton cœur va être rempli. Et toute la glace qu'il y a, tout ce qui est froid, tout ce qui est gelé en toi, même ta passion pour Dieu, tu as l'impression qu'elle est juste froide, et puis tu dis, je ne sais pas comment faire. La réponse, c'est la louange. Viens dans la présence de Dieu. On vit dans une ère aujourd'hui où la louange, où on peut avoir tout le bain de louange dans notre téléphone. On peut vivre, on peut arriver à la maison puis mettre de la musique et être rempli des louanges de Dieu. Et puis même si tu chantes pas bien, il y a quelqu'un qui chante mieux pour toi. Et puis tu l'écoutes et puis tu es juste en train de dire, Seigneur, merci. Moi, mes temps de louanges les plus puissants sont souvent tout seul dans ma voiture. C'est pas quand je lis d'une église ou quelque chose, non, c'est moi personnellement, quand je vois la grâce de Dieu dans ma vie, dans ce qu'il fait, dans mon couple, dans ma famille. Et puis même si des fois c'est des moments difficiles, je me dis, Seigneur, merci parce que tu es là, tu ne m'abandonnes pas. Tu étais là dès ma naissance, tu seras là jusqu'à la fin, et même après, tu seras avec moi, je serai avec toi pour toujours. C'est ça qui doit me donner la paix. Peu importe ce que tu vis en ce moment, Dieu est là. Est-ce qu'on pourrait fermer nos yeux ensemble? J'aimerais prier. Et alors qu'il y a un miracle qui se fait à chaque fois que son Église décide de dire « Je viens et je lui offre tout. » Dieu prend plaisir dans la louange de ses enfants. Pourquoi? Parce que même quand on n'a plus rien, Le fait de dire, Seigneur, j'ai même plus la force de venir à toi, mais je fais juste venir à toi et puis j'ai même pas de mots. Parfois, on a juste des pleurs en disant, Seigneur, je viens juste te dire merci pour qui tu es. Il n'y a rien dans, en ce moment, ce qui se passe que j'avais prévu, mais je veux juste te dire merci. Mais ça, c'est un sacrifice qu'on vient. On vient donner à Dieu. Le sacrifice a été payé à la croix et nous n'avons plus à venir sacrifier des êtres vivants. Non. Il n'y a plus d'animaux qui vont souffrir. Non, Jésus a souffert pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Mais à chaque fois qu'on décide de venir contre tout ce qui est en nous qui nous dit non, tais-toi, reste là. À chaque fois qu'on vient, on donne un sacrifice à Dieu en disant je te donne tout, même ce que je n'ai pas. La louange, c'est d'arrêter de voir tout ce qui va mal en moi et de commencer à déclarer tout ce qui est bon en Dieu. Dieu est proche de ceux qui souffrent. Dieu est proche de toi ce matin. Dieu est proche de toi qui va bien. Mais la seule chose qu'il veut, au-delà que ta situation s'arrange, c'est que sa présence remplisse ta maison, remplisse ton cœur, remplisse ton couple, remplisse ton célibat en ce moment, remplisse tes relations au travail. Au plus il y aura la louange dans ta vie, au plus Dieu pourra se manifester pour montrer sa gloire au travers de ta vie. Et je crois et je veux vraiment décider que cette année, ma louange sera plus forte, plus grande, plus pure, plus puissante, plus forte que jamais elle aura été dans la vie. Et peu importe les circonstances qui vont être bonnes ou pas, chaque jour, je me lèverai et je donnerai la gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une église qui veut dire oui, ça c'est notre décision? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et alors qu'on va chanter un chant, et puis je veux vraiment qu'on mette ce message en pratique. Je veux qu'on ferme nos yeux, et puis ce matin, on n'a qu'une réunion, et puis je veux vraiment qu'on prenne un temps de louange pour la fin de ce message. On n'est pas en train d'être pris par le temps ce matin, non. On va donner le temps à Dieu pour qu'il puisse se manifester parce que son Église va le louer. Combien disent amen? Est-ce qu'on pourrait lever nos mains ensemble vers Dieu? Et ce matin, tu vas peut-être être défié à être extravagant dans ta louange, mais sois-le pour Dieu. Les gens autour de toi ne te regardent pas. Et même s'ils te regardent, en fait, inspire-les. Aie une louange tellement contagieuse. Si tu es passionné, tu vas être passionnant. Et ce matin, Dieu veut nous entendre. Je veux qu'on chante fort. Il y a peut-être des prisonniers autour de nous qui doivent nous entendre, qui doivent nous voir en train de dire, mais lui, il devrait avoir toutes les raisons de ne pas louer, mais là, il est en train de choisir de louer. On va chanter ce chant qui dit Jésus-Christ, mon rocher. Je veux qu'on le déclare. Je veux qu'on déclare que même dans l'orage, même dans la tempête, Dieu est là et on ne craint rien. Est-ce qu'il y a une église qui peut déjà commencer à élever sa voix, à dire merci, Seigneur, pour qui tu es, à répandre, Seigneur, ta gloire en nous. Même si en nous, il n'y a plus rien qui fonctionne, Seigneur, toi, tu fonctionnes en nous. Et toi, tu nous donnes l'espoir, tu nous donnes la paix, tu nous donnes la joie, tu nous donnes une voix, même si c'est une voix où on pleure, tu nous donnes une voix pour te louer, pour t'élever. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble?